When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Section 0 de Le dernier jour d'un condamné. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Le dernier jour d'un condamné par Victor Hugo. Préface. Il n'y avait en tête des premières éditions de cet ouvrage, publiées d'abord sans nom d'auteur, que les quelques lignes qu'on va lire. Il y a deux manières de se rendre compte de l'existence de ce livre. Où il y a eu en effet une liasse de papiers jaunes et inégaux, sur lesquels on a trouvé, enregistrées une à une, les dernières pensées d'un misérable, où il s'est rencontré un homme, un rêveur occupé à observer la nature au profit de l'art, un philosophe, un poète, que sais-je, dont cette idée a été la fantaisie, qu'il a prise, ou plutôt s'est laissé prendre par elle, et n'a pu s'en débarrasser qu'en la jetant dans un livre. De ces deux explications, le lecteur choisira celle qu'il voudra. Comme on le voit, à l'époque où ce livre fut publié, l'auteur ne jugea pas à propos de dire dès lors toute sa pensée. Il aima mieux attendre qu'elle fût comprise, et voir si elle le serait. Elle l'a été. L'auteur, aujourd'hui, peut démasquer l'idée politique, l'idée sociale, qu'il avait voulu populariser sous cette innocente et candide forme littéraire. Il déclare donc, ou plutôt il avoue hautement, que le dernier jour d'un condamné n'est autre chose qu'un plaidoyer, direct ou indirect, comme on voudra, pour l'abolition de la peine de mort. Ce qu'il a eu dessein de faire, ce qu'il voudrait que la postérité vit dans son œuvre, si jamais elle s'occupe de si peu, ce n'est pas la défense spéciale, et toujours facile, et toujours transitoire, de tel ou tel criminel choisi, de tel ou tel accusé d'élection. C'est la plaidoirie générale et permanente pour tous les accusés présents et à venir. C'est le grand point de droit de l'humanité allégué et plaidé à toute voix devant la société, qui est la grande cour de cassation. C'est cette suprême fin de non-recevoir, aborescerea sanguine, construite à tout jamais en avant de tous les procès criminels. C'est la sombre et fatale question qui palpite obscurément au fond de toutes les causes capitales, sous les triples épaisseurs de pathos, dont l'enveloppe la rhétorique sanglante des gens du roi. C'est la question de vie et de mort, dis-je, déshabillée, dénudée, dépouillée des entortillages sonores du parquet, brutalement mise au jour et posée où il faut qu'on la voie, où il faut qu'elle soit, où elle est réellement dans son vrai milieu, dans son milieu horrible, non au tribunal mais à l'échafaud, non chez le juge mais chez le bourreau. Voilà ce qu'il a voulu faire. Si l'avenir lui décernait un jour la gloire de l'avoir fait, ce qu'il n'ose espérer, il ne voudrait pas d'autre couronne. Il le déclare donc, il le répète. Il occupe, au nom de tous les accusés possibles, innocents ou coupables, devant toutes les cours, tous les prétoires, tous les jurys, toutes les justices. Ce livre est adressé à quiconque juge. Et pour que le plaidoyer soit aussi vaste que la cause, il a dû, et c'est pour cela que le dernier jour d'un condamné est ainsi fait, élaguer de toutes parts dans son sujet le contingent, l'accident, le particulier, le spécial, le relatif, le modifiable, l'épisode, l'anecdote, l'événement, le nom propre, et se borner, si c'est là se borner, à plaider la cause d'un condamné quelconque, exécuté un jour quelconque, pour un crime quelconque. Heureux si, sans autre outil que sa pensée, il a fouillé assez avant pour faire saigner un cœur sous la haie triplex du magistrat. Heureux s'il a rendu pitoyable ceux qui se croient justes. Heureux si à force de creuser dans le juge, il a réussi quelquefois à y retrouver un homme. Il y a 3 ans, quand ce livre parut, quelques personnes imaginèrent que cela valait la peine d'en contester l'idée à l'auteur. Les uns supposèrent un livre anglais, les autres un livre américain. Singulière manie de chercher à 1000 lieues les origines des choses et de faire couler des sources du Nil le ruisseau qui lave votre rue. Hélas, il n'y a en ceci ni livre anglais, ni livre américain, ni livre chinois. L'auteur a pris l'idée du dernier jour d'un condamné, non dans un livre. Il n'a pas l'habitude d'aller chercher ses idées si loin. Mais là où vous pouvez tous la prendre, où vous l'aviez prise peut-être, qui n'a fait ou rêvé dans son esprit le dernier jour d'un condamné? Tout bonnement sur la place publique, sur la place de grève. C'est là qu'un jour, en passant, il a ramassé cette idée fatale, gisante dans une mare de sang, sous les rouges moignons de la guillotine. Depuis, chaque fois qu'au gré des funèbres jeudis de la cour de cassation, il arrivait un de ces jours où le cri d'un arrêt de mort se fait dans Paris, chaque fois que l'auteur entendait passer sous ses fenêtres ces hurlements enroués qui ameutent des spectateurs pour la grève, chaque fois la douloureuse idée lui revenait, s'emparait de lui, lui emplissait la tête de gendarmes, de bourreaux et de foules, lui expliquait heure par heure les dernières souffrances du misérable agonisant. En ce moment, on le confesse, en ce moment, on lui coupe les cheveux, en ce moment, on lui lie les mains. Le sommet, lui, pauvre poète, de dire tout cela à la société, qui fait ses affaires pendant que cette chose monstrueuse s'accomplit, le pressait, le poussait, le secouait, lui arrachait ses vers de l'esprit, s'il était en train d'en faire, et les tuait à peine ébauchés, barrait tous ses travaux, se mettait en travers de tout, l'investissait, l'obsédait, l'assiégeait. C'était un supplice qui commençait avec le jour et qui durait comme celui du misérable qu'on torturait au même moment, jusqu'à 4 heures. Alors seulement, une fois le ponens caput expiravit, crié par la voix sinistre de l'horloge, l'auteur respirait et retrouvait quelque liberté d'esprit. Un jour, enfin, c'était à ce qu'il croit, le lendemain de l'exécution d'Ulbach, il se mit à écrire ce livre. Depuis lors, il a été soulagé. Quand un de ces crimes publics, qu'on nomme exécution judiciaire, a été commis, sa conscience lui a dit qu'il n'en était plus solidaire, et il n'a plus senti à son front cette goutte de sang qui rejaillit de la grève sur la tête de tous les membres de la communauté sociale. Toutefois, cela ne suffit pas. Se laver les mains est bien, empêcher le sang de couler serait mieux. Aussi ne connaîtrait-il pas de but plus élevé, plus sain, plus auguste que celui-là, concourir à l'abolition de la peine de mort. Aussi est-ce du fond du cœur qu'il adhère aux vœux et aux efforts des hommes généreux de toutes les nations qui travaillent depuis plusieurs années à jeter bas l'arbre patibulaire, le seul arbre que les révolutions ne déracinent pas. C'est avec joie qu'il vient à son tour, lui chétif, donner son coup de cognée et élargir de son mieux l'entaille que Beccaria a faite, il y a 66 ans, au vieux gibet dressé depuis tant de siècles sur la chrétienté. Nous venons de dire que l'échafaud est le seul édifice que les révolutions ne démolissent pas. Il est rare, en effet, que les révolutions soient sobres de sang humain. Et venues qu'elles sont pour émonder, pour ébrancher, pour étêter la société, la peine de mort est une des serpes dont elles se dessaisissent le plus malaisément. Nous l'avouerons cependant, si jamais révolution nous parut digne et capable d'abolir la peine de mort, c'est la révolution de juillet. Il semble en effet qu'il appartenait au mouvement populaire le plus clément des temps modernes de raturer la pénalité barbare de Louis XI, de Richelieu et de Robespierre, et d'inscrire au front de la loi l'inviolabilité de la vie humaine. 1830 méritait de briser le couperet de 93. Nous l'avons espéré un moment. En août 1830, il y avait tant de générosité et de pitié dans l'air, un tel esprit de douceur et de civilisation flottait dans les masses, on se sentait le cœur si bien épanoui par l'approche d'un bel avenir qu'il nous sembla que la peine de mort était abolie de droit, d'emblée, d'un consentement tacite et unanime, comme le reste des choses mauvaises qui nous avaient gênés. Le peuple venait de faire un feu de joie des guenilles de l'ancien régime. Celle-là était la guenille sanglante. Nous la crûmes dans le tas, nous la crûmes brûlée comme les autres. et pendant quelques semaines, confiant et crédule, nous eûmes foi pour l'avenir à l'inviolabilité de la vie comme à l'inviolabilité de la liberté. Et en effet, 2 mois s'étaient à peine écoulés qu'une tentative fut faite pour résoudre en réalité légale l'utopie sublime de César Bonesana. Malheureusement, cette tentative fut gauche, maladroite, presque hypocrite, et faite dans un autre intérêt que l'intérêt général. Au mois d'octobre 1830, on se le rappelle, quelques jours après avoir écarté par l'ordre du jour la proposition d'ensevelir Napoléon sous la colonne, la chambre tout entière se mit à pleurer et à bramer. La question de la peine de mort fut mise sur le tapis, nous allons dire quelques lignes plus bas à quelle occasion. Et alors, il sembla que toutes ces entrailles de législateur étaient prises d'une subite et merveilleuse miséricorde. Ce fut à qui parlerait, à qui gémirait, à qui lèverait les mains au ciel. La peine de mort, grand Dieu, quelle horreur ! Tel vieux procureur général, blanchi dans la robe rouge, qui avait mangé toute sa vie le pain trempé de sang des réquisitoires, se composa tout à coup un air piteux et attesta les dieux qu'il était indigné de la guillotine. Pendant 2 jours, la tribune ne désemplit pas de harangueurs en pleureuses. Ce fut une lamentation, une myriologie, un concert de psaumes lugubres, un super flumina babylonis, un stabat mater dolorosa, une grande symphonie en ut, exécutée par tout cet orchestre d'orateurs qui garnit les premiers bancs de la chambre et rend de si beaux sons dans les grands jours. Tel vint avec sa basse, tel avec son fausset. Rien n'y manqua. La chose fut on ne peut plus pathétique et pitoyable. La séance de nuit surtout fut tendre, paterne et déchirante comme un 5e acte de la chaussée. Le bon public, qui n'y comprenait rien, avait les larmes aux yeux. De quoi s'agissait-il donc ? D'abolir la peine de mort ? Oui et non. Voici le fait. 4 hommes du monde, 4 hommes comme il faut. De ces hommes qu'on a pu rencontrer dans un salon, et avec qui peut-être on a échangé quelques paroles polies, 4 de ces hommes, dis-je, avaient tenté dans les hautes régions politiques un de ces coups hardis que Bacon appelle crime et que Machiavel appelle entreprise. Or, crime ou entreprise, la loi, brutale pour tous, punit cela de mort. Et les 4 malheureux étaient là, prisonniers, captifs de la loi, gardés par 300 cocardes tricolores sous les belles ogives de Vincennes. Que faire et comment faire? Vous comprenez qu'il est impossible d'envoyer à la grève, dans une charrette, ignoblement liée, avec de grosses cordes, dos à dos, avec ce fonctionnaire qu'il ne faut pas seulement nommer, 4 hommes comme vous et moi. 4 hommes du monde, encore s'il y avait une guillotine en acajou. Eh, il n'y a qu'à abolir la peine de mort. Et là-dessus, la chambre se met en besogne. Remarquez, messieurs, qu'hier encore vous traitez cette abolition d'utopie, de théorie, de rêve, de folie, de poésie. Remarquez que ce n'est pas la première fois qu'on cherche à appeler votre attention sur la charrette, sur les grosses cordes et sur l'horrible machine écarlate. Et qu'il est étrange que ce hideux attirail vous saute ainsi aux yeux, tout à coup. Bah, c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas à cause de vous, peuple, que nous abolissons la peine de mort, mais à cause de nous, députés qui pouvons être ministres. Nous ne voulons pas que la mécanique de guillotin morde les hautes classes. Nous la brisons. Tant mieux si cela arrange tout le monde, mais nous n'avons songé qu'à nous. Qu'à les gonds brûlent, éteignons le feu. Vite, supprimons le bourreau, biffons le code. Et c'est ainsi qu'un alliage d'égoïsme altère et dénature les plus belles combinaisons sociales. C'est la veine noire dans le marbre blanc. Elle circule partout et apparaît à tout moment à l'improviste sous le ciseau. Votre statue est à refaire. Certes, il n'est pas besoin que nous le déclarions ici. Nous ne sommes pas de ceux qui réclamaient les têtes des 4 ministres. Une fois ces infortunés arrêtés, la colère indignée que nous avait inspirée leur attentat s'est changé chez nous, comme chez tout le monde, en une profonde pitié. Nous avons songé aux préjugés d'éducation de quelques-uns d'entre eux, au cerveau peu développé de leur chef relapse fanatique et obstiné des conspirations de 1804, blanchi avant l'âge, sous l'ombre humide des prisons d'État, aux nécessités fatales de leur position commune, à l'impossibilité d'enrayer sur cette pente rapide où la monarchie s'était lancée elle-même à toute bride, le 8 août 1829, à l'influence trop peu calculée par nous jusqu'alors de la personne royale, surtout à la dignité que l'un d'entre eux répandait comme un manteau de pourpre sur leur malheur. Nous sommes de ceux qui leur souhaitaient bien sincèrement la vie sauve et qui étaient prêts à se dévouer pour cela. Si jamais, par impossible, leur échafaud eût été dressé un jour en grève, nous ne doutons pas, et si c'est une illusion, nous voulons la conserver, nous ne doutons pas qu'il y eût eu une émeute pour le renverser. Et celui qui écrit ces lignes eût été de cette sainte émeute. Car, il faut bien le dire aussi, dans les crises sociales, de tous les échafauds, l'échafaud politique est le plus abominable, le plus funeste, le plus vénéneux, le plus nécessaire à extirper. Cette espèce de guillotine-là prend racine dans le pavé et en peu de temps repousse de boutures sur tous les points du sol. En temps de révolution, prenez garde à la première tête qui tombe, elle met le peuple en appétit. Nous étions donc personnellement d'accord avec ceux qui voulaient épargner les quatre ministres et d'accord de toute manière par les raisons sentimentales comme par les raisons politiques. Seulement, nous eussions mieux aimé que la Chambre choisît une autre occasion pour proposer l'abolition de la peine de mort. Si on l'avait proposé, cette souhaitable abolition, non à propos de quatre ministres tombés des Tuileries à Vincennes, mais à propos du premier voleur de grand chemin venu, à propos d'un de ces misérables que vous regardez à peine quand il passe près de vous dans la rue, auquel vous ne parlez pas, dont vous évitez instinctivement le coudoiement poudreux. Malheureux dont l'enfance déguenillée a couru pieds nus dans la boue des carrefours, grelottant l'hiver au rebord des quais, se chauffant au soupirail des cuisines de M. Véfour, chez qui vous dînez, déterrant çà et là une croûte de pain dans un tas d'ordures et l'essuyant avant de la manger, grattant tout le jour le ruisseau avec un clou pour y trouver un liard, n'ayant d'autre amusement que le spectacle gratis de la fête du roi et les exécutions en grève, cet autre spectacle gratis. Pauvre diable, que la faim pousse au vol, et le vol au reste. Enfant déshérité d'une société marâtre, que la maison de force prend à 12 ans, le bagne à 18, l'échafaud à 40. Infortuné qu'avec une école et un atelier vous auriez pu rendre bon, moraux, utile, et dont vous ne savez que faire, les versant comme un fardeau inutile, tantôt dans la rouge fourmilière de Toulon, tantôt dans le mets enclos de Clamart, leur retranchant la vie après leur avoir volé la liberté. Si c'eût été à propos d'un de ces hommes que vous eussiez proposé d'abolir la peine de mort, oh, alors votre séance eût été vraiment digne, grande, sainte, majestueuse, vénérable. Depuis les augustes pères de 30, invitant les hérétiques au concile au nom des entrailles de Dieu, Père Viscera Dei, parce qu'on espère leur conversion, Coniam sancta synodus sperat aereticorum conversionem. Jamais assemblée d'hommes n'aurait présenté au monde spectacle plus sublime, plus illustre et plus miséricordieux. Il a toujours appartenu à ceux qui sont vraiment forts et vraiment grands d'avoir souci du faible et du petit. Un conseil de Brahmine serait beau, prenant en main la cause du paria. Et ici la cause du paria, c'était la cause du peuple. En abolissant la peine de mort, à cause de lui et sans attendre que vous fussiez intéressé dans la question, vous faisiez plus qu'une œuvre politique, vous faisiez une œuvre sociale. Tandis que vous n'avez pas même fait une œuvre politique en essayant de l'abolir, non pour l'abolir, mais pour sauver quatre malheureux ministres pris la main dans le sac des coups d'État. Qu'est-il arrivé? C'est que, comme vous n'étiez pas sincère, on a été défiant. Quand le peuple a vu qu'on voulait lui donner le change, il s'est fâché contre toute la question en masse, et chose remarquable, il a pris fait et cause pour cette peine de mort dont il supporte pourtant tout le poids. C'est votre maladresse qui l'a amené là. En abordant la question de biais et sans franchise, vous l'avez compromise pour longtemps. Vous jouiez une comédie, on l'a sifflée. Cette farce, pourtant, quelques esprits avaient eu la bonté de la prendre au sérieux. Immédiatement après la fameuse séance, ordre avait été donné aux procureurs généraux, par un garde des Sceaux honnête homme, de suspendre indéfiniment toutes exécutions capitales. C'était en apparence un grand pas. Les adversaires de la peine de mort respirèrent, mais leur illusion fut de courte durée. Le procès des ministres fut mené à fin. Je ne sais quel arrêt fut rendu. Les quatre vies furent épargnées. Homme fut choisi comme juste milieu entre la mort et la liberté. Ces divers arrangements, une fois faits, toute peur s'évanouit dans l'esprit des hommes d'État dirigeants, et, avec la peur, l'humanité s'en alla. Il ne fut plus question d'abolir le supplice capital, et une fois qu'on n'eut plus besoin d'elle, l'utopie redevint utopie, la théorie, théorie, la poésie, poésie. Il y avait pourtant toujours dans les prisons quelques malheureux condamnés vulgaires qui se promenaient dans les préaux depuis 5 ou 6 mois, respirant l'air tranquille désormais, sûrs de vivre, prenant leur sursis pour leur grâce. Mais attendez. Le bourreau, à vrai dire, avait eu grand-peur. Le jour où il avait entendu les faiseurs de loi parler humanité, philanthropie, progrès, il s'était cru perdu. Il s'était caché, le misérable. Il s'était blotti sous sa guillotine, mal à l'aise au soleil de juillet, comme un oiseau de nuit en plein jour, tâchant de se faire oublier, se bouchant les oreilles et n'osant souffler. On ne le voyait plus depuis 6 mois. Il ne donnait plus signe de vie. Peu à peu, cependant, il s'était rassuré dans ses ténèbres. Il avait écouté du côté des chambres et n'avait plus entendu prononcer son nom. Plus de ces grands mots sonores dont il avait eu si grande frayeur. Plus de commentaires déclamatoires du traité des délits et des peines. On s'occupait de toute autre chose, de quelque grave intérêt social, d'un chemin vicinal, d'une subvention pour l'opéra comique, ou d'une saignée de 100 000 francs sur un budget apoplectique de 1 500 000 000. Personne ne songeait plus à lui, coupe-tête. Ce que voyant, l'homme se tranquillise. Il met sa tête hors de son trou et regarde de tous côtés. Il fait un pas, puis deux, comme je ne sais plus quelle souris de la fontaine. Puis il se hasarde à sortir tout à fait de dessous son échafaudage. Puis il saute dessus, le raccommode, le restaure, le fourbit, le caresse, le fait jouer, le fait reluire, se remet à suiffer la vieille mécanique rouillée que l'oisiveté détraquait. Tout à coup il se retourne, saisit au hasard par les cheveux dans la première prison venue un de ces infortunés qui comptaient sur la vie, le tire à lui, le dépouille, l'attache, le boucle, et voilà les exécutions qui recommencent. Tout cela est affreux, mais c'est de l'histoire. Oui, il y a eu un sursis de 6 mois accordé à de malheureux captifs, dont on a gratuitement aggravé la peine de cette façon en les faisant reprendre à la vie, puis sans raison, sans nécessité, sans trop savoir pourquoi, pour le plaisir, on a un beau matin révoqué le sursis, et l'on a remis froidement toutes ces créatures humaines en coupe réglée. Eh, mon Dieu, je vous le demande, qu'est-ce que cela nous faisait à tous que ces hommes vécussent? Est-ce qu'il n'y a pas en France assez d'air à respirer pour tout le monde? Pour qu'un jour un misérable commis de la chancellerie, à qui cela était égal, se soit levé de sa chaise en disant « Allons, personne ne songe plus à l'abolition de la peine de mort. Il est temps de se remettre à guillotiner. Il faut qu'il se soit passé dans le cœur de cet homme-là quelque chose de bien monstrueux. Du reste, disons-le, jamais les exécutions n'ont été accompagnées de circonstances plus atroces que depuis cette révocation du sursis de juillet. Jamais l'anecdote de la grève n'a été plus révoltante et n'a mieux prouvé l'exécration de la peine de mort. Ce redoublement d'horreur est le juste châtiment des hommes qui ont remis le code du sang en vigueur. Qu'ils soient punis par leur œuvre. C'est bien fait. Il faut citer ici 2 ou 3 exemples de ce que certaines exécutions ont eu d'épouvantable et d'impie. Il faut donner mal aux nerfs aux femmes des procureurs du roi. Une femme, c'est quelquefois une conscience. Dans le Midi, vers la fin du mois de septembre dernier, nous n'avons pas bien présents à l'esprit le lieu, le jour, ni le nom du condamné, mais nous les retrouverons si l'on conteste le fait, et nous croyons que c'est à Pamiers. Vers la fin de septembre, donc, on vient trouver un homme dans sa prison, où il jouait tranquillement aux cartes. On lui signifie qu'il faut mourir dans 2 heures, ce qui le fait trembler de tous ses membres, car depuis 6 mois qu'on l'oubliait, il ne comptait plus sur la mort. On le rase, on le tond, on le garrotte, on le confesse, puis on le brouette entre 4 gendarmes et à travers la foule au lieu de l'exécution. Jusqu'ici, rien que de simple. C'est comme cela que cela se fait. Arrivé à l'échafaud, le bourreau le prend au prêtre, l'emporte, le ficelle sur la bascule, l'enfourne, je me sers ici du mot d'argot, puis il lâche le couperet. Le lourd triangle de fer se détache avec peine, tombe en cahotant dans ses rainures, et voici l'horrible qui commence, entaille l'homme sans le tuer. L'homme pousse un cri affreux, le bourreau déconcerté relève le couperet et le laisse retomber. Le couperet mord le cou du patient une seconde fois, mais ne le tranche pas. Le patient hurle, la foule aussi. Le bourreau rehisse encore le couperet, espérant mieux du 3e coup. Point. Le 3e coup fait jaillir un 3e ruisseau de sang de la nuque du condamné, mais ne fait pas tomber la tête. Abrégeons. Le couteau remonta et retomba 5 fois. 5 fois il entama le condamné. 5 fois le condamné hurla sous le coup et secoua sa tête vivante en criant grâce. Le peuple indigné prit des pierres et se mit dans sa justice à lapider le misérable bourreau. Le bourreau s'enfuit sous la guillotine et s'y tapit derrière les chevaux des gendarmes. Mais vous n'êtes pas au bout. Le supplicié, se voyant seul sur l'échafaud, s'était redressé sur la planche. Et là, debout, effroyable, ruisselant de sang, soutenant sa tête à demi coupée qui pendait sur son épaule, il demandait avec de faibles cris qu'on vînt le détacher. La foule, pleine de pitié, était sur le point de forcer les gendarmes et de venir à l'aide du malheureux qui avait subi 5 fois son arrêt de mort. C'est en ce moment-là qu'un valet du bourreau, jeune homme de 20 ans, monte sur l'échafaud, dit au patient de se tourner pour qu'il le délie, et profitant de la posture du mourant qui se livrait à lui sans défiance, saute sur son dos et se met à lui couper péniblement ce qui lui restait de cou avec je ne sais quel couteau de boucher. Cela s'est fait, cela s'est vu, oui. Au terme de la loi, un juge a dû assister à cette exécution. D'un signe, il pouvait tout arrêter. Que faisait-il donc, au fond de sa voiture, cet homme, pendant qu'on massacrait un homme? Que faisait ce punisseur d'assassin, pendant qu'on assassinait, en plein jour, sous ses yeux, sous le souffle de ses chevaux, sous la vitre de sa portière? Et le juge n'a pas été mis en jugement, et le bourreau n'a pas été mis en jugement, et aucun tribunal ne s'est enquis de cette monstrueuse extermination de toutes les lois sur la personne sacrée d'une créature de Dieu. Au XVIIe siècle, à l'époque de barbarie du code criminel, sous Richelieu, sous Christophe Fouquet, quand Monsieur de Chalais fut mis à mort devant le Bouffet de Nantes par un soldat maladroit qui, au lieu d'un coup d'épée, lui donna 34 coups d'une doloire de tonnelier, du moins cela parut-il irrégulier au Parlement de Paris. Il y eut enquête et procès, et si Richelieu ne fut pas puni, si Christophe Fouquet ne fut pas puni, le soldat le fut. Injustice sans doute, mais au fond de laquelle il y avait de la justice. Ici, rien. La chose a eu lieu après juillet, dans un temps de douces mœurs et de progrès, 1 an après la célèbre lamentation de la Chambre sur la peine de mort. Eh bien, le fait a passé absolument inaperçu. Les journaux de Paris l'ont publié comme une anecdote. Personne n'a été inquiété. On a su seulement que la guillotine avait été disloquée exprès par quelqu'un qui voulait nuire à l'exécuteur des hautes œuvres. C'était un valet du bourreau, chassé par son maître, qui, pour se venger, lui avait fait cette malice. Ce n'était qu'une espièglerie. Continuons. À Dijon, il y a 3 mois, on a mené au supplice une femme. Une femme. Cette fois encore, le couteau du docteur Guillotin a mal fait son service. La tête n'a pas été tout à fait coupée. Alors les valets de l'exécuteur se sont attelés aux pieds de la femme, et à travers les hurlements de la malheureuse, et à force de tiraillements et de soubresauts, ils lui ont séparé la tête du corps par arrachement. À Paris, nous revenons au temps des exécutions secrètes. Comme on n'ose plus décapiter en grève depuis juillet, comme on a peur, comme on est lâche, voici ce qu'on fait. On a pris dernièrement à Bicêtre un homme, un condamné à mort, un nommé Desandrieux, je crois. On l'a mis dans une espèce de panier traîné sur 2 roues, clos de toutes parts, cadenassé et verrouillé. Puis, un gendarme en tête, un gendarme en queue, à petit bruit et sans foule, on a été déposer le paquet à la barrière déserte de Saint-Jacques. Arrivé là, il était 8 heures du matin, à peine jour. Il y avait une guillotine toute fraîche dressée, et pour public quelques douzaines de petits garçons groupés sur les tas de pierres voisins autour de la machine inattendue. Vite, on a tiré l'homme du panier, et sans lui donner le temps de respirer, furtivement, sournoisement, honteusement, on lui a escamoté sa tête. Cela s'appelle un acte public et solennel de haute justice. Infâme dérision. Comment donc les gens du roi comprennent-ils le mot « civilisation » Où en sommes-nous? La justice ravalée aux stratagèmes et aux supercheries. La loi aux expédients, monstrueux. C'est donc une chose bien redoutable qu'un condamné à mort pour que la société le prenne en traître de cette façon. Soyons justes pourtant, l'exécution n'a pas été tout à fait secrète. Le matin, on a crié et vendu comme de coutume l'arrêt de mort dans les carrefours de Paris. Il paraît qu'il y a des gens qui vivent de cette vente. Vous entendez ? Du crime d'un infortuné, de son châtiment, de ses tortures, de son agonie, on fait une denrée, un papier qu'on vend un sou. Concevez-vous rien de plus hideux que ce sou, vert de grisé dans le sang ? Qui est-ce donc qui le ramasse ? Voilà assez de faits, en voilà trop. Est-ce que tout cela n'est pas horrible ? Qu'avez-vous à alléguer pour la peine de mort ? Nous faisons cette question sérieusement, nous la faisons pour qu'on y réponde. Nous la faisons aux criminalistes et non aux lettrés bavards. Nous savons qu'il y a des gens qui prennent l'excellence de la peine de mort pour texte à paradoxe comme tout autre thème. Il y en a d'autres qui n'aiment la peine de mort que parce qu'ils haïssent tel ou tel qui l'attaque. C'est pour eux une question quasi littéraire, une question de personne, une question de nom propre. Ceux-là sont les envieux qui ne font pas plus faute aux bons jurisconsultes qu'aux grands artistes. Les Joseph Grippa ne manquent pas plus aux Filangieri que les Torreggiani aux Michel-Ange et les Scuderi aux Corneille. Ce n'est pas à eux que nous nous adressons, mais aux hommes de loi proprement dit, aux dialecticiens, aux raisonneurs, à ceux qui aiment la peine de mort pour la peine de mort, pour sa beauté, pour sa bonté, pour sa grâce. Voyons qu'ils donnent leur raison. Ceux qui jugent et qui condamnent disent la peine de mort nécessaire. D'abord parce qu'il importe de retrancher de la communauté sociale un membre qui lui a déjà nui et qui pourrait lui nuire encore. S'il ne s'agissait que de cela, la prison perpétuelle suffirait. À quoi bon la mort ? Vous objectez qu'on peut s'échapper d'une prison. Faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries ? Pas de bourreau, où le geôlier suffit. Mais, reprend-on, il faut que la société se venge, que la société punisse, ni l'un ni l'autre. Se venger est de l'individu, punir est de Dieu. La société est entre deux. Le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous. Rien de si grand et de si petit ne lui sied. Elle ne doit pas punir pour se venger, elle doit corriger pour améliorer. Transformer de cette façon la formule des criminalistes, nous la comprenons et nous y adhérons. Reste la troisième et dernière raison, la théorie de l'exemple. Il faut faire des exemples. Il faut épouvanter par le spectacle du sort réservé aux criminels ceux qui seraient tentés de les imiter. Voilà bien à peu près textuellement la phrase éternelle dont tous les réquisitoires des 500 parquets de France ne sont que des variations plus ou moins sonores. Eh bien, nous nions d'abord qu'il y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet qu'on en attend. Loin d'édifier le peuple, il le démoralise et ruine en lui toute sensibilité, partant toute vertu. Les preuves abondent et encombreraient notre raisonnement si nous voulions en citer. Nous signalerons pourtant un fait entre mille parce qu'il est le plus récent. Au moment où nous écrivons, il n'a que 10 jours de date. Il est du 5 mars, dernier jour du carnaval. À Saint-Paul, immédiatement après l'exécution d'un incendiaire nommé Louis Camus, une troupe de masques est venue danser autour de l'échafaud encore fumant. Faites donc des exemples, le mardi gras vous rit au nez. Que si, malgré l'expérience, vous tenez à votre théorie routinière de l'exemple, alors rendez-vous le XVIe siècle. Soyez vraiment formidable. Rendez-nous la variété des supplices. Rendez-nous Farinacci. Rendez-nous les tourmenteurs jurés. Rendez-nous le gibet, la roue, le bûcher, l'estrapade, l'essoriement, l'écartèlement, la fosse à enfouir vif, la cuve à bouillir vif. Rendez-nous dans tous les carrefours de Paris, comme une boutique de plus ouverte parmi les autres, le hideux étal du bourreau, sans cesse garni de chair fraîche. Rendez-nous Montfaucon, les 16 piliers de pierre, ces brutes assises, ces caves à ossements, ces poutres, ces crocs, ces chaînes, ses brochettes de squelettes, son éminence de plâtre tachetée de corbeaux, ses potences succursales, et l'odeur du cadavre que par le vent du nord-est il répand à larges bouffées sur tout le faubourg du temple. Rendez-nous dans sa permanence et dans sa puissance ce gigantesque appentis du bourreau de Paris. À la bonne heure, voilà de l'exemple en grand, voilà de la peine de mort bien comprise, voilà un système de supplice qui a quelques proportions. Voilà qui est horrible, mais qui est terrible. Ou bien, faites comme en Angleterre. En Angleterre, pays de commerce, on prend un contrebandier sur la côte de Douvres, on le pend, pour l'exemple. Pour l'exemple, on le laisse accroché au gibet. Mais comme les intempéries de l'air pourraient détériorer le cadavre, on l'enveloppe soigneusement d'une toile enduite de goudron, afin d'avoir à le renouveler moins souvent. Ô terre d'économie, goudronnez les pendus. Cela pourtant est encore quelque logique. C'est la façon la plus humaine de comprendre la théorie de l'exemple. Mais vous, est-ce bien sérieusement que vous croyez faire un exemple quand vous écorgillez misérablement un pauvre homme dans le recoin le plus désert des boulevards extérieurs, en grève en plein jour, passe encore, mais à la barrière Saint-Jacques, mais à 8 heures du matin, qui est-ce qui va là? Qui est-ce qui sait que vous tuez un homme, là? Qui est-ce qui se doute que vous faites un exemple, là? Un exemple pour qui? Pour les arbres du boulevard, apparemment. Ne voyez-vous donc pas que vos exécutions publiques se font en tapinois? Ne voyez-vous donc pas que vous vous cachez, que vous avez peur et honte de votre œuvre, que vous balbutiez ridiculement votre discrite justitia moniti, qu'au fond vous êtes ébranlé, interdit, inquiet, peu certain d'avoir raison, gagné par le doute général, coupant des têtes par routine et sans trop savoir ce que vous faites? Ne sentez-vous pas au fond du cœur que vous avez tout au moins perdu le sentiment moral et social de la mission de sang que vos prédécesseurs, les vieux parlementaires, accomplissaient avec une conscience si tranquille? La nuit, ne retournez-vous pas plus souvent qu'eux la tête sur votre oreiller? D'autres, avant vous, ont ordonné des exécutions capitales, mais ils s'estimaient dans le droit, dans le juste, dans le bien. Jouvenel des Ursins se croyait un juge. Élie de Thorette se croyait un juge. Laubardemont,
la Reynie et la Fémas,
eux-mêmes, se croyaient des juges. Vous, dans votre fort intérieur, vous n'êtes pas bien sûr de ne pas être des assassins. Vous quittez la grève pour la barrière Saint-Jacques, la foule pour la solitude, le jour pour le crépuscule. Vous ne faites plus fermement ce que vous faites. Vous vous cachez, vous dis-je. Toutes les raisons pour la peine de mort les voilà donc démolies. Voilà tous les syllogismes de parquet mis à néant. Tous ces copeaux de réquisitoire les voilà balayés et réduits en cendres. Le moindre attouchement de la logique dissout tous les mauvais raisonnements. Que les gens du roi ne viennent donc plus nous demander des têtes, à nous jurer, à nous, hommes, en nous adjurant d'une voix caressante au nom de la société à protéger, de la vindicte publique à assurer, des exemples à faire. Rhétorique, ampoule, et néant que tout cela. Un coup d'épingle dans ces hyperboles et vous les désenflez. Au fond de ce doux reverbiage, vous ne trouvez que dureté de cœur, cruauté, barbarie, envie de prouver son zèle, nécessité de gagner ses honoraires. Taisez-vous, mandarin. Sous la patte de velours du juge, on sent les ongles du bourreau. Il est difficile de songer de sang-froid à ce que c'est qu'un procureur royal criminel. C'est un homme qui gagne sa vie à envoyer les autres à l'échafaud. C'est le pourvoyeur titulaire des places de grève. Du reste, c'est un monsieur qui a des prétentions au style et aux lettres, qui est beau parleur ou croit l'être, qui récite au besoin un vers latin ou deux avant de conclure à la mort, qui cherche à faire de l'effet, qui intéresse son amour-propre. Oh, misère, là où d'autres ont leur vie engagée, qui a ses modèles à lui, ses types désespérants à atteindre, ses classiques, son Bellart, son Marchangy, comme tel poète à Racine et tel autre Boileau. Dans le débat, il tire du côté de la guillotine, c'est son rôle, c'est son état. Son réquisitoire, c'est son œuvre littéraire. Il le fleurit de métaphores, il le parfume de citations. Il faut que cela soit beau à l'audience, que cela plaise aux dames. Il a son bagage de lieux communs encore très neuf pour la province, ses élégances d'élocution, ses recherches, ses raffinements d'écrivain. Il est le mot propre, presque autant que nos poètes tragiques de l'école de Delille. N'ayez pas peur qu'il appelle les choses par leur nom, fi donc. Il a pour toute idée dont la nudité vous révolterait des déguisements complets d'épithètes et d'adjectifs. Il rend M. Samson présentable, il gaze le couperet, il estompe la bascule, il entortille le panier rouge dans une périphrase. On ne sait plus ce que c'est douceâtre et décent. Vous le représentez, vous, la nuit, dans son cabinet, élaborant à loisir et de son mieux cette harangue qui fera dresser un échafaud dans 6 semaines? Le voyez-vous,
suant sang et eau pour emboîter la tête d'un accusé dans le plus fatal article du code? Le voyez-vous scier avec une loi mal faite le cou d'un misérable? Remarquez-vous comme il fait infuser dans un gâchis de tropes et de synecdoches deux ou trois textes vénéneux pour en exprimer et en extraire à grand-peine la mort d'un homme? N'est-il pas vrai que tandis qu'il écrit, sous sa table, dans l'ombre, il a probablement le bourreau accroupi à ses pieds et qu'il arrête de temps en temps sa plume pour lui dire, comme le maître à son chien, « Paix là, paix là, tu vas avoir ton os !» Du reste, dans la vie privée, cet homme du roi peut être un honnête homme, bon père, bon fils, bon mari, bon ami, comme disent toutes les épitaphes du Père Lachaise. Espérons que le jour est prochain où la loi abolira ses fonctions funèbres. L'air seul de notre civilisation doit dans un temps donné user la peine de mort. On est parfois tenté de croire que les défenseurs de la peine de mort n'ont pas bien réfléchi à ce que c'est. Mais pesez donc un peu à la balance de quelque crime que ce soit, ce droit exorbitant que la société s'arroge, d'ôter ce qu'elle n'a pas donné, cette peine, la plus irréparable des peines irréparables. De deux choses l'une, ou l'homme que vous frappez est sans famille, sans parents, sans adhérents dans ce monde, et dans ce cas, il n'a reçu ni éducation, ni instruction, ni soin pour son esprit, ni soin pour son cœur. Et alors, de quel droit tuez-vous ce misérable orphelin? Vous le punissez de ce que son enfance a rampé sur le sol sans tige et sans tuteur. Vous lui imputez à forfait l'isolement où vous l'avez laissé. De son malheur, vous faites son crime. Personne ne lui a appris à savoir ce qu'il faisait. Cet homme ignore.
Sa faute est à sa destinée,
non à lui. Vous frappez un innocent. Ou cet homme a une famille. Et alors, croyez-vous que le coup dont vous l'égorgez ne blesse que lui seul, que son père, que sa mère, que ses enfants n'en saigneront pas? Non. En le tuant, vous décapitez toute sa famille. Et ici encore, vous frappez des innocents. Gauche et aveugle pénalité qui, de quelque côté qu'elle se tourne, frappe l'innocent. Cet homme, ce coupable qui a une famille, séquestrez-le. Dans sa prison, il pourra travailler encore pour les siens. Mais comment les fera-t-il vivre du fond de son tombeau? Et songez-vous sans frissonner à ce que deviendront ces petits garçons, ces petites filles, auxquels vous ôtez leur père, c'est-à-dire leur pain? Est-ce que vous comptez sur cette famille pour approvisionner dans 15 ans, eux, le bagne, elle, le musico? Oh, les pauvres innocents! Aux colonies, quand un arrêt de mort tue un esclave, il y a 1000 francs d'indemnité pour le propriétaire de l'homme. Quoi? Vous dédommagez le maître? Et vous n'indemnisez pas la famille. Ici aussi, ne prenez-vous pas un homme à ceux qui le possèdent? N'est-il pas, à un titre bien autrement sacré que l'esclave, vis-à-vis du maître, la propriété de son père, le bien de sa femme, la chose de ses enfants? Nous avons déjà convaincu votre loi d'assassinat. La voici convaincue de vol. Autre chose encore. L'âme de cet homme, y songez-vous. Savez-vous dans quel état elle se trouve? Osez-vous bien l'expédier si lestement? Autrefois, du moins, quelquefois circulait dans le peuple. Au moment suprême, le souffle religieux qui était dans l'air pouvait amollir le plus endurci. Un patient était en même temps un pénitent. La religion lui ouvrait un monde au moment où la société lui en fermait un autre. Toute âme avait conscience de Dieu. L'échafaud n'était qu'une frontière du ciel. Mais quelle espérance mettez-vous sur l'échafaud maintenant que la grosse foule ne croit plus, maintenant que toutes les religions sont attaquées du dry rot, comme ces vieux vaisseaux qui pourrissent dans nos ports et qui jadis peut-être ont découvert des mondes, maintenant que les petits-enfants se moquent de Dieu? De quel droit lancez-vous dans quelque chose dont vous doutez vous-même les âmes obscures de vos condamnés, ces âmes telles que Voltaire et M. Pigault-Lombrin les ont faites? Vous les livrez à votre aumônier de prison, excellent vieillard sans doute. Mais croit-il, et fait-il croire? Ne grossa-t-il pas, comme une corvée, son œuvre sublime? Est-ce que vous le prenez pour un prêtre, ce bonhomme qui coudoie le bourreau dans la charrette? Un écrivain plein d'âme et de talent l'a dit avant nous. C'est une horrible chose de conserver le bourreau après avoir ôté le confesseur. Ce ne sont là, sans doute, que des raisons sentimentales, comme disent quelques dédaigneux qui ne prennent leur logique que dans leur tête. À nos yeux, ce sont les meilleurs. Nous préférons souvent les raisons du sentiment aux raisons de la raison. D'ailleurs, les deux séries se tiennent toujours, ne l'oublions pas. Le traité des délits est greffé sur l'esprit des lois. Montesquieu a engendré Beccaria. La raison est pour nous, le sentiment est pour nous. L'expérience est aussi pour nous. Dans les États modèles où la peine de mort est abolie, la masse des crimes capitaux suit d'année en année une baisse progressive. Pesez ceci. Nous ne demandons cependant pas, pour le moment, une brusque et complète abolition de la peine de mort, comme celle où s'était si étourdiment engagée la Chambre des députés. Nous désirons, au contraire, tous les essais, toutes les précautions, tous les tâtonnements de la prudence. D'ailleurs, nous ne voulons pas seulement l'abolition de la peine de mort, nous voulons un remaniement complet de la pénalité sous toutes ses formes, du haut en bas, depuis le verrou jusqu'au couperet, et le temps est un des ingrédients qui doivent entrer dans une pareille œuvre pour qu'elle soit bien faite. Nous comptons développer ailleurs sur cette matière le système d'idées que nous croyons applicable. Mais, indépendamment des abolitions partielles pour le cas de fausse monnaie, d'incendie, de vol qualifié, etc., nous demandons que dès à présent, dans toutes les affaires capitales, le président soit tenu de poser au jury cette question : l'accusé a-t-il agi par passion ou par intérêt ? Et que, dans le cas où le jury répondrait : l'accusé a agi par passion, il n'y ait pas condamnation à mort. Cela nous épargnerait du moins quelques exécutions révoltantes. Ulbach et Debacker seraient sauvés. On ne guillotinerait plus Othello. Au reste, qu'on ne s'y trompe pas, cette question de la peine de mort mûrit tous les jours. Avant peu, la société entière la résoudra comme nous. Que les criminalistes les plus entêtés y fassent attention. Depuis un siècle, la peine de mort va s'amoindrissant. Elle se fait presque douce, signe de décrépitude, signe de faiblesse, signe de mort prochaine. La torture a disparu, la roue a disparu, la potence a disparu. Chose étrange, la guillotine elle-même est un progrès. Monsieur Guillotin était un philanthrope. Oui, l'horrible Thémis dentu et vorace de Farinacci et de Vouglans, de Delancre et d'Isaac Loisel, de Dopède et de Machaut, dépérit. Elle maigrit, elle se meurt. Voilà déjà la grève qui n'en veut plus. La grève se réhabilite. La vieille buveuse de sang s'est bien conduite en juillet. Elle veut mener désormais meilleure vie et rester digne de sa dernière belle action. Elle, qui s'était prostituée depuis 3 siècles à tous les échafauds, la pudeur la prend. Elle a honte de son ancien métier. Elle veut perdre son vilain nom. Elle répudie le bourreau. Elle lave son pavé. À l'heure qu'il est, la peine de mort est déjà hors de Paris. Or, disons-le bien ici, sortir de Paris, c'est sortir de la civilisation. Tous les symptômes sont pour nous. Il semble aussi qu'elle se rebute et qu'elle rechigne, cette hideuse machine, ou plutôt ce monstre fait de bois et de fer qui est à Guillotin ce que Galatée est à Pygmalion. Vu d'un certain côté, les effroyables exécutions que nous avons détaillées plus haut sont d'excellents signes. La guillotine hésite. Elle en est à manquer son coup. Tout le vieil échafaudage de la peine de mort se détraque. L'infâme machine partira de France. Nous y comptons. Et s'il plaît à Dieu, elle partira en boitant, car nous tâcherons de lui porter du rude coup. Qu'elle aille demander l'hospitalité ailleurs, à quelque peuple barbare. Non à la Turquie qui se civilise, non aux sauvages qui ne voudraient pas d'elle. Mais qu'elle descende quelques échelons encore de l'échelle de la civilisation. Qu'elle aille en Espagne ou en Russie. L'édifice social du passé reposait sur 3 colonnes, le prêtre, le roi, le bourreau. Il y a longtemps qu'une voix a dit « les dieux s'en vont ». Dernièrement, une autre voix s'est élevée et a crié « les rois s'en vont ». Il est temps maintenant qu'une troisième voix s'élève et dise « le bourreau s'en va ». Ainsi l'ancienne société sera tombée pierre à pierre. Ainsi la Providence aura complété l'écroulement du passé. À ceux qui ont regretté les dieux, on a pu dire « Dieu reste ». À ceux qui regrettent les rois, on peut dire « la patrie reste ». À ceux qui regretteraient le bourreau, on n'a rien à dire. Et l'ordre ne disparaîtra pas avec le bourreau, ne le croyez point. La voûte de la société future ne coulera pas pour n'avoir point cette clé hideuse. La civilisation n'est autre chose qu'une série de transformations successives. À quoi donc allez-vous assister? à la transformation de la pénalité. La douce loi du Christ pénétrera enfin le code et rayonnera à travers. On regardera le crime comme une maladie, et cette maladie aura ses médecins qui remplaceront vos juges, ses hôpitaux qui remplaceront vos bagnes. La liberté et la santé se ressembleront. On versera le baume et l'huile où l'on appliquait le fer et le feu. On traitera par la charité ce mal qu'on traitait par la colère. Ce sera simple et sublime, la croix substituée au gibet. Voilà tout. 15 mars 1832.
Fin de la section 0. Section 1 de Le dernier jour d'un condamné par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Comédie.
Une comédie à propos d'une tragédie. Personnages. Madame de Blainval, le chevalier, Ergast, un poète élégiaque, un philosophe, un gros monsieur, un monsieur maigre, des femmes, un laquais. Un salon. Un poète élégiaque lisant. Le lendemain, des pas traversaient la forêt, un chien le long du fleuve en aboyant errait, et quand le bachelette, en larmes, revint s'asseoir, le cœur rempli d'alarme, sur la tant vieille tour de l'antique châtel, elle entendit les flots gémir, la triste Isaure, mais plus n'entendit la mandore du gentil ménestrel. Tout l'auditoire. « Bravo, charmant, ravissant !» On bat des mains. Madame de Blainval. Il y a dans cette fin un mystère indéfinissable qui tire les larmes des yeux. Le poète élégiaque, modestement, la catastrophe est voilée. Le chevalier hochant la tête, Mandore, ménestrel, c'est du romantique, ça. Le poète élégiaque. Oui, monsieur, mais du romantique raisonnable, du vrai romantique. Que voulez-vous? Il faut bien faire quelques concessions. Le chevalier. Des concessions, c'est comme cela qu'on perd le goût. Je donnerais tous les vers romantiques seulement pour ce quatrain. De par le pain des parcitaires, gentil Bernard est averti que l'art d'aimer doit samedi venir souper chez l'art de plaire. Voilà la vraie poésie. L'art d'aimer qui soupe samedi chez l'art de plaire. À la bonne heure. Mais aujourd'hui, c'est la mandore, le ménestrel. On ne fait plus de poésie fugitive. Si j'étais poète, je ferais des poésies fugitives. Mais je ne suis pas poète, moi. Le poète élégiaque. Cependant, les élégies. Le chevalier. Poésie fugitive, monsieur. Bah, à madame de Blainval. Et puis, Châtel n'est pas français, on dit Castel. Quelqu'un au poète élégiaque. Une observation, monsieur. Vous dites l'antique Châtel. Pourquoi pas le gothique? Le poète élégiaque. Gothique ne se dit pas en vers. Le quelqu'un. Ah, c'est différent. Le poète élégiaque poursuivant. Voyez-vous bien, monsieur, il faut se borner. Je ne suis pas de ceux qui veulent désorganiser le vers français et nous ramener à l'époque des Ronsard et des Brébeuf. Je suis romantique, mais modéré. C'est comme pour les émotions. Je les veux douces, rêveuses, mélancoliques, mais jamais de sang, jamais d'horreur. Voilez les catastrophes. Je sais qu'il y a des gens, des fous, des imaginations en délire qui... Tenez, mesdames, avez-vous lu le nouveau roman? Les dames. Quel roman? Le poète élégiaque. Le dernier jour. Un gros monsieur. Ah, si, monsieur, je sais ce que vous voulez dire. Le titre seul me fait mal honneur. Madame de Blainval. Et à moi aussi. C'est un livre affreux. Je l'ai là. Les dames. Voyons, voyons. On se passe le livre de main en main. Quelqu'un lisant. Le dernier jour d'un... Le gros monsieur. Grâce, madame. Madame de Blainval. En effet, c'est un livre abominable. Un livre qui donne le cauchemar. Un livre qui rend malade. Une femme, bah. Il faudra que je lise cela. Le gros monsieur. Il faut convenir que les mœurs vont se dépravant de jour en jour. Mon Dieu, l'horrible idée. Développer, creuser, analyser l'une après l'autre, et sans en passer une seule, toutes les souffrances physiques, toutes les tortures morales que doit éprouver un homme condamné à mort le jour de l'exécution. Cela n'est-il pas atroce? Comprenez-vous, mesdames, qu'il se soit trouvé un écrivain pour cette idée et un public pour cet écrivain? Le chevalier. Voilà en effet qui est souverainement impertinent. Madame de Blainval. Qu'est-ce que c'est que l'auteur ?
Le gros monsieur. Il n'y a pas de nom à la première édition.
Le poète Elégiaque. C'est le même qui a déjà fait deux autres romans. Ma foi, j'ai oublié les titres. Le premier commence à la morgue et finit à la grève. À chaque chapitre, il y a un ogre qui mange un enfant.
Le gros monsieur. Vous avez lu cela, monsieur ?
Le poète Elégiaque. Oui, monsieur. La scène se passe en Islande.
Le gros monsieur. En Islande ? C'est épouvantable.
Le poète Elégiaque. Il a fait en outre des odes, des ballades, je ne sais quoi, où il y a des monstres qui ont des corbleus.
Le chevalier, riant.
Corbleu ! Cela doit faire un furieux vert.
Le poète Elégiaque.
Il a publié aussi un drame, on appelle cela un drame, où l'on trouve ce beau vers, demain, 25 juin 1657.
Quelqu'un. Ah, ce vers !
Le poète Elégiaque. Cela peut s'écrire en chiffres. Voyez-vous, mesdames, demain, 25 juin 1657.
Il rit, on rit.
Le chevalier. C'est une chose particulière que la poésie d'à présent.
Le gros monsieur.
Ah, ça, il ne sait pas versifier, cet homme-là. Comment donc s'appelle-t-il déjà ?
Le poète Elégiaque.
Il a un nom aussi difficile à retenir qu'à prononcer. Il y a du Goth, du Visigoth, de l'Ostrogoth dedans.
Il rit.
Madame de Blainval. C'est un vilain homme.
Le gros monsieur.
Un abominable homme.
Une femme.
Quelqu'un qui le connaît m'a dit.
Le gros monsieur.
Vous connaissez quelqu'un qui le connaît ?
La jeune femme.
Oui, et qui dit que c'est un homme doux, simple, qui vit dans la retraite, et passe ses journées à jouer avec ses petits-enfants.
Le poète. Et ses nuits à rêver des œuvres de ténèbres. C'est singulier.
Voilà un vers que j'ai fait tout naturellement. Mais c'est qu'il y est, le vers.
Et ses nuits à rêver des œuvres de ténèbres.
Avec une bonne césure.
Il n'y a plus que l'autre rime à trouver. Pardieu, funèbre.
Madame de Blainval.
Quid quid tantabat dicere versus erat.
Le gros monsieur.
Vous disiez donc que l'auteur en question a des petits-enfants ?
Impossible, madame. Quand on a fait cet ouvrage-là, un roman atroce.
Quelqu'un.
Mais ce roman, dans quel but l'a-t-il fait ?
Le poète Elégiaque.
Est-ce que je sais, moi ?
Un philosophe. À ce qu'il paraît, dans le but de concourir à l'abolition de la peine de mort.
Le gros monsieur.
Une horreur, vous dis-je.
Le chevalier.
Ah, ça, c'est donc un duel avec le bourreau.
Le poète Elégiaque. Il en veut terriblement à la guillotine.
Un monsieur maigre.
Je vois cela d'ici. Des déclamations.
Le gros monsieur.
Point.
Il y a à peine 2 pages sur ce texte de la peine de mort. Tout le reste, ce sont des sensations.
Le philosophe.
Voilà le tort. Le sujet méritait le raisonnement. Un drame, un roman ne prouve rien. Et puis j'ai lu le livre, et il est mauvais.
Le poète Elégiaque.
Détestable. Est-ce que c'est là de l'art ?
C'est passer les bornes. C'est casser les vitres.
Encore ce criminel, si je le connaissais.
Mais point.
Qu'a-t-il fait ?
On n'en sait rien.
C'est peut-être un fort mauvais drôle. On n'a pas le droit de m'intéresser à quelqu'un que je ne connais pas.
Le gros monsieur.
On n'a pas le droit de faire éprouver à son lecteur des souffrances physiques. Quand je vois des tragédies, on se tue, eh bien, cela ne me fait rien. Mais ce roman, il vous fait dresser les cheveux sur la tête. Il vous fait venir la chair de poule. Il vous donne de mauvais rêves. J'ai été 2 jours au lit pour l'avoir lu.
Le philosophe. Ajoutez à cela que c'est un livre froid et compassé.
Le poète. Un livre, un livre.
Le philosophe.
Oui.
Et comme vous disiez tout à l'heure, monsieur, ce n'est point là de véritable esthétique. Je ne m'intéresse pas à une abstraction, à une entité pure. Je ne vois point là une personnalité qui s'adéquate avec la mienne. Et puis, le style n'est ni simple ni clair. Il sent l'archaïsme. C'est bien là ce que vous disiez, n'est-ce pas ?
Le poète.
Sans doute, sans doute. Il ne faut pas de personnalité.
Le philosophe.
Le condamné n'est pas intéressant.
Le poète.
Comment intéresserait-il ?
Il a un crime et pas de remords.
J'eusse fait tout le contraire. J'eusse conté l'histoire de mon condamné, né de parents honnêtes, une bonne éducation, de l'amour, de la jalousie, un crime qui n'en soit pas un. Et puis des remords, beaucoup de remords. Mais les lois humaines sont implacables, il faut qu'il meure. Et là, j'aurais traité ma question de la peine de mort, à la bonne heure.
Madame de Blainval.
Ha ha !
Le philosophe.
Pardon, le livre, comme l'entend monsieur, ne prouverait rien. La particularité
ne régit pas la généralité.
Le poète.
Et bien mieux encore, pourquoi n'avoir pas choisi pour héros, par exemple, Malesherbes, le vertueux Malesherbes, son dernier jour, son supplice? Oh, alors, beau et noble spectacle! J'eusse pleuré, j'eusse frémi, j'eusse voulu monter sur l'échafaud avec lui.
Le philosophe. Pas moi.
Le chevalier. Ni moi. C'était un révolutionnaire, au fond, que votre monsieur de Malesherbes.
Le philosophe.
L'échafaud de Malesherbes ne prouve rien contre la peine de mort en général.
Le gros monsieur.
La peine de mort, à quoi bon s'occuper de cela? Qu'est-ce que cela vous fait, la peine de mort? Il faut que cet auteur soit bien mal né de venir nous donner le cauchemar à ce sujet avec son livre.
Madame de Blainval.
Ah oui, un bien mauvais cœur.
Le gros monsieur.
Il nous force à regarder dans les prisons, dans les bagnes, dans Bicêtre. C'est fort désagréable. On sait bien ce que sont des cloaques, mais qu'importe à la société?
Madame de Blainval.
Ceux qui ont fait les lois n'étaient pas des enfants.
Le philosophe.
Ah, cependant, en présentant les choses avec vérité.
Le monsieur maigre.
Eh, c'est justement ce qui manque, la vérité. Que voulez-vous qu'un poète sache sur de pareilles matières? Il faudrait être au moins procureur du roi. Tenez, j'ai lu dans une citation qu'un journal faisait de ce livre que le condamné ne dit rien quand on lui lit son arrêt de mort. Eh bien, moi, j'ai vu un condamné qui, dans ce moment-là, a poussé un grand cri. Vous voyez?
Le philosophe.
Permettez.
Le monsieur maigre.
Tenez, messieurs, la guillotine, la grève, c'est de mauvais goût. Et la preuve, c'est qu'il paraît que c'est un livre qui corrompt le goût et vous rend incapable d'émotions pures, fraîches, naïves. Quand donc se lèveront les défenseurs de la saine littérature? Je voudrais être, et mes réquisitoires m'en donneraient peut-être le droit, membre de l'Académie française. Voilà justement monsieur Ergast qui en est. Que pense-t-il du dernier jour d'un condamné?
Ergast.
Ma foi, monsieur, je ne l'ai lu ni ne le lirai. Je dînais hier chez madame de Sénanges, et la marquise de Morival en a parlé au duc de Melcourt. On dit qu'il y a des personnalités contre la magistrature et surtout contre le président d'Alimont. L'abbé de Floricourt était aussi indigné. Il paraît qu'il y a un chapitre contre la religion et un chapitre contre la monarchie. Si j'étais procureur du roi.
Le chevalier.
Eh bien oui, procureur du roi, et la charte, et la liberté de la presse.
Cependant, un poète qui veut supprimer la peine de mort, vous conviendrez que c'est odieux.
Dans l'Ancien Régime, quelqu'un qui se serait permis de publier un roman contre la torture. Mais depuis la prise de la Bastille, on peut tout écrire. Les livres font un mal affreux.
Le gros monsieur.
Affreux. On était tranquille, on ne pensait à rien. Il se coupait bien de temps en temps en France une tête par-ci par-là, deux tout au plus par semaine. Tout cela sans bruit, sans scandale. Il ne disait rien. Personne n'y songeait. Pas du tout. Voilà un livre. Un livre qui vous donne un mal de tête horrible.
Le monsieur maigre.
Le moyen qu'un juré condamne après l'avoir lu.
Ergast.
Cela trouble les consciences.
Madame de Blainval.
Ah, les livres, les livres! Qui eût dit cela d'un roman?
Le poète.
Il est certain que les livres sont bien souvent un poison subversif de l'ordre social.
Le monsieur maigre.
Sans compter la langue, que messieurs les romantiques révolutionnent aussi.
Le poète.
Distinguons, monsieur, il y a romantique et romantique.
Le monsieur maigre.
Le mauvais goût, le mauvais goût.
Ergast.
Vous avez raison, le mauvais goût.
Le monsieur maigre.
Il n'y a rien à répondre à cela.
Le philosophe, appuyé au fauteuil d'une dame.
Ils disent là des choses qu'on ne dit même plus rue Mouffetard.
Ergast.
Ah, l'abominable livre!
Madame de Blainval.
Hé, ne le jetez pas au feu, il est à la loueuse.
Le chevalier.
Parlez-moi de notre temps, comme tout s'est dépravé depuis, le goût et les mœurs. Vous souvient-il de notre temps, madame de Blainval?
Madame de Blainval.
Non, monsieur, il ne m'en souvient pas.
Le chevalier.
Nous étions le peuple le plus doux, le plus gai, le plus spirituel. Toujours de belles fêtes, de jolis vers. C'était charmant. Y a-t-il rien de plus galant que le madrigal de monsieur de la Harpe sur le grand bal que madame la maréchale de Mailly donna en 1700, l'année de l'exécution de Damien?
Le gros monsieur soupirant.
Heureux temps. Maintenant les mœurs sont horribles, et les livres aussi. C'est le Beauvert de Boileau, et la chute des arts suit la décadence des mœurs.
Le philosophe bat au poète. Soupe-t-on dans cette maison ?
Le poète et les Jacques, oui, tout à l'heure.
Le monsieur maigre. Maintenant, on veut abolir la peine de mort, et pour cela, on fait des romans cruels, immoraux et de mauvais goût. Le dernier jour d'un condamné, que sais-je ?
Le gros monsieur. Tenez, mon cher, ne parlons plus de ce livre atroce. Et puisque je vous rencontre, dites-moi, que faites-vous de cet homme dont nous avons rejeté le pourvoi depuis 3 semaines ?
Le monsieur maigre. Oh, un peu de patience. Je suis en congé ici. Laissez-moi respirer. À mon retour. Si cela tarde trop pourtant, j'écrirai à mon substitut. Un laquais entrant. Madame est servie.
Fin de la section 1. Section 2.
De Le dernier jour d'un condamné par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan.
Chapitre 1 à 12.
Chapitre 1. Bicêtre. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisies. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses 2 mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entrouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille « Condamné à mort ». Chapitre 2. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé, 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre, 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passaient et repassaient devant moi, tantôt grotesques, tantôt sanglantes, toujours sombre et fatal. Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir. La 3e, j'en avais assez dormi d'ennui et de fatigue. À 00h, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'étaient les 1ières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut, pour me tirer de ma léthargie, sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc !» J'ouvris les yeux, je me dressai effaré sur mon séant.
En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin, seul ciel qu'il me fut donné d'entrevoir, ce reflet jaune, où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil. « Il fait beau, » dis-je au guichetier. Il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. Puis, avec quelque effort, il murmura brusquement, « C'est possible ?» Je demeurais immobile, l'esprit à demi endormi, la bouche souriante, l'œil fixé sur cette douce réverbération dorée qui diaprait le plafond. « Voilà une belle journée, » répétai-je. « Oui, » me répondit l'homme, « on vous attend. » Ce peu de mots, comme le fil qui rompt le vol de l'insecte, me rejeta violemment dans la réalité. Je revis soudain, comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer à cheval des juges chargés de haillons ensanglantés, les trois rangs de témoins aux faces stupides, les deux gendarmes au debout de mon banc, et les robes noires s'agiter, et les têtes de la foule fourmillées au fond dans l'ombre, et s'arrêter sur moi le regard fixe de ces douze jurés qui avaient veillé pendant que je dormais. Je me levais, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savaient où trouver mes vêtements, mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchais comme un portefeuille trop chargé. Cependant, je suivis le geôlier. Les deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Ceux-là avaient une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissai faire, c'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête, le ciel était bleu, et les rayons chauds du soleil, découpés par les longues cheminées, traçaient de grands angles de lumière au faîte des murs hauts et sombres de la prison. Il faisait beau, en effet. Nous montâmes un escalier tournant en vis. Nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un troisième. Puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud mêlé de bruit vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Les banquettes se déplacèrent bruyamment, les cloisons craquèrent, et pendant que je traversais la longue salle entre deux masses de peuple murées de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. À cet instant, je m'aperçus que j'étais sans fer, mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les avait ôtés. Alors, il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu, et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra, de la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors, la salle était claire comme pour une noce, les gais rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs, et de ces losanges éclatants aux fenêtres, chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges, au fond de la salle, avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon. Et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient, et rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchandes de fleurs, et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vint rayonner en moi comme le jour autour de moi. et confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Cependant, mon avocat arriva, on l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. « J'espère, me dit-il. « N'est-ce pas ? Répondis-je, léger et souriant aussi. « Oui, reprit-il, je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. « Que dites-vous là, monsieur ? Répliquai-je indigné. « Plutôt 100 fois la mort. « Oui, la mort. Et d'ailleurs, me répétais je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela ? A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver ? Mais au mois d'août, à 8 heures du matin, un si beau jour, c'est bon juré, c'est impossible. Et mes yeux revenaient se fixer sur la jolie fleur jaune, au soleil. Tout à coup, le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes. Comme par un mouvement électrique, toute l'assemblée fut debout au même instant. Une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessous du tribunal, c'était, je pense, le greffier, prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyai au mur pour ne pas tomber. « Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine ? » demanda le président. J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. Le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessée de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers les 1000 émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit. Plutôt 100 fois la mort. Mais l'haleine me manqua, et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras, en criant, avec une force convulsive, « Non !» Le procureur général combattit l'avocat, et je l'écoutais avec une satisfaction stupide. Puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. « Condamné à mort !» dit la foule.
Et tandis qu'on m'emmenait,
tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. « Un condamné à mort !» criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguais 2 jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. « Bon !» dit la plus jeune en battant des mains. « Ce sera dans 6 semaines. »
Chapitre 3. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non ? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation ? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie ? Combien m'ont devancé qui, jeunes, libres et sains, comptaient bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève ? Combien d'ici là, peut-être, qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré, et qui me devanceront encore ? Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi ? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens, être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé des guichetiers et des gardes-chiourmes, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende, sans cesse tressaillir, et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera. Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever
le bourreau.
Oh, n'importe, c'est horrible.
Chapitre 4. La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux Bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Il se déroule à l'horizon, au front d'une colline, et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure, les pignons dégradés blessent l'œil, je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salit ses royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glaces aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés auxquels se collent çà et là quelques hâves figures d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie, vue de près. Chapitre 5. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions. Point de couteau, point de fourchette pour mes repas. La camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse, et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité. Ils n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout quelques mots en latin que j'adressai au concierge, qui ne les comprit pas, m'ouvrirent la promenade, une fois par semaine, avec les autres détenus, et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes, et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau, à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me comptent leur tour. Ce serait à faire horreur. Mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rouscailler, bigorne, comme ils disent. C'est toute une langue, hantée sur la langue générale, comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois, une énergie singulière, un pittoresque effrayant. Il y a du résiné sur le trimas, du sang sur le chemin. Épouser la veuve, être pendu, comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a 2 noms. La Sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille le crime. La tronche, quand le bourreau la coupe. Quelquefois de l'esprit de vaudeville, un cachemire d'osier, une hotte de chiffonnier. La menteuse, la langue. Et puis partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laids et sordides, venus on ne sait d'où. Le tôle, le bourreau, la cône, la mort, la placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillons que l'on secourait devant vous. Du moins, ces hommes-là me plaignent. Ils sont les seuls. Les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas, causent et rient, et parlent de moi, devant moi, comme d'une chose.
Chapitre 6. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre 4 murailles de pierre nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction machinalement occupée tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre, et, comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Pourquoi non? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche? Pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Certes, la matière est riche, et, si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront, de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer, et les peindre m'en distraira. Et puis,
Ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? N'y aura-t-il pas dans ce procès-verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent, il y a une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort? Non, ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire, et pensent sans doute que pour le condamné, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelque moment leur esprit sur les souffrances de l'esprit. Car ce sont celles-là qu'ils ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer, sans presque faire souffrir le corps. Eh, c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Horreur et pitié des lois faites ainsi. Un jour viendra, et peut-être ces mémoires, derniers confidents d'un misérable, y auront-ils contribué. À moins qu'après ma mort le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collés en étoiles à la vitre cassée d'un guichetier.
Chapitre 7.
Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe? Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies? Jeter bas à l'échafaud après que j'y aurai monté? Je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Quoi? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi? Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut, qu'il faudra mourir demain, aujourd'hui peut-être, que cela est ainsi? Ô Dieu, l'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot.
Chapitre 8.
Comptons ce qui me reste. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises, après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente chez le ministre, qui ne sait seulement pas qu'elles existent, et qui cependant est supposé les transmettre, après examen, à la cour de cassation. Là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est encombrée, et chacun ne doit passer qu'à son tour. 15 jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin, la cour s'assemble, d'ordinaire un jeudi, rejette 20 pourvois en masse et renvoie le tout au ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. 3 jours. Le matin du 4e jour, le substitut du procureur général se dit, en mettant sa cravate, « Il faut pourtant que cette affaire finisse. » Alors, si le substitut du greffier n'a pas quelque déjeuner d'amis qui l'en empêche, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié, et le lendemain, dès l'aube, on entend dans la place de grève clouer une charpente, et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués. En tout 6 semaines, la petite fille avait raison. Oh, voilà 5 semaines au moins, 6 peut-être, je n'ose compter, que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. Il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi.
Chapitre 9.
Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais, et tout ce que j'ai suffira à peine. La guillotine, c'est forcheur. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes sans fils, sans mari, sans père, 3 orphelines de différentes espèces, trois veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement puni. Ces innocentes qu'ont-elles fait? N'importe, on les déshonore, on les ruine, c'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans, elle mourra du coup. Ou si elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette, elle ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi, à moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre, mais du moins l'intelligence ne souffre pas. Elle dort, elle est comme morte. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à 7 heures et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Chapitre 10. Voilà ce que c'est que mon cachot. 8 pieds carrés, 4 murailles de pierre de taille qui s'appuient à angle droit sur un pavé de dalles exhaussé d'un degré au-dessus du corridor extérieur. À droite de la porte, en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve. On y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutil, hiver comme été. Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive, c'est ainsi que cela s'appelle, à laquelle d'épaisses toiles d'araignées pendent comme des haillons. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail, une porte où le fer cache le bois. Je me trompe. Au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés, coupée d'une grille en croix et que le guichetier peut fermer la nuit. Au dehors, un assez long corridor éclairé, aéré au moyen de soupiraux étroits au haut du mur et divisé en compartiments de maçonnerie qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses. Chacun de ces compartiments sert en quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien. C'est dans ces cachots que l'on met les forçats condamnés par le directeur de la prison à des peines de discipline. Les 3 premiers cabanons sont réservés aux condamnés à mort parce qu'étant plus voisins de la geôle, ils sont plus commodes pour le geôlier. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre, tel qu'il fut bâti dans le 15e siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge et qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie. Le guichetier a eu 100 sous. J'oubliais de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée sans rencontrer ces 2 yeux fixes toujours ouverts. Du reste, on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. Chapitre 11. Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit? Il m'est venu une idée. Je me suis levé et j'ai promené ma lampe sur les 4 murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamné ait voulu laisser trace, ici du moins. C'est du crayon, de la craie, du charbon, des lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans la pierre, ça et là des caractères rouillés qu'on dirait écrits avec du sang. Certes, si j'avais l'esprit plus libre, je prendrais intérêt à ce livre étrange qui se développe page à page, à mes yeux, sur chaque pierre de ce cachot. J'aimerais à recomposer un tout de ces fragments de pensée, épars sur la dalle, à retrouver chaque homme sous chaque nom, à rendre le sens et la vie à ces inscriptions mutilées, à ces phrases démembrées, à ces mots tronqués, corps sans tête, comme ceux qui les ont écrits. À la hauteur de mon chevet, il y a 2 cœurs enflammés, percés d'une flèche et au-dessus, amour pour la vie. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. À côté, une espèce de chapeau à 3 cornes, avec une petite figure grossièrement dessinée au-dessus, et ces mots, « Vive l'empereur, 1824 ». Encore des cœurs enflammés, avec cette inscription caractéristique dans une prison, « J'aime et j'adore Mathieu d'Anvin, Jacques ». Sur le mur opposé, on lit ce mot, « Papavoine ». Le P majuscule est brodé d'arabesques, et enjolivé avec soin. Un couplet d'une chanson obscène, un bonnet de liberté sculpté assez profondément dans la pierre, avec ceci dessous, Bory, la République. C'était un des 4 sous-officiers de La Rochelle, pauvre jeune homme. Que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. Et moi qui me plaignais, Moi, misérable, qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang, je n'irai pas plus loin dans ma recherche. Je viens de voir, crayonnée en blanc, au coin du mur, une image épouvantable. La figure de cet échafaud qui, à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi, la lampe a failli me tomber des mains. Chapitre 12. Je suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma paille, la tête dans les genoux, puis mon effroi d'enfant s'est dissipé et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. À côté du nom de Papavoine, j'ai arraché une énorme toile d'araignée, tout épaissie par la poussière, et tendue à l'angle de la muraille. Sous cette toile, il y avait 4 ou 5 noms, parfaitement lisibles, parmi d'autres dont il ne reste rien qu'une tache sur le mur. Dautin, 1815, Poulain, 1818, Jean Martin, 1821, Castin, 1823. J'ai lu ces noms, et de lugubres souvenirs me sont venus. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier, et qui allait la nuit dans Paris jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout. Poulain, celui qui a assassiné sa femme. Jean Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Castin, ce médecin qui a empoisonné son ami, et qui, le soignant dans cette dernière maladie qu'il lui avait faite, au lieu de remède, lui redonnait du poison. Et auprès de cela, Papavoine, l'horrible fou, qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. « Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins, voilà quels ont été avant moi les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé, leur dernière pensée, ces hommes de meurtre et de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude, et c'est à moi qu'ils l'ont laissée. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. Je ne suis ni visionnaire ni superstitieux. Il est probable que ces idées me donnaient un accès de fièvre. Mais pendant que je rêvais ainsi, il m'a semblé tout à coup que ces noms fatals étaient écrits avec du feu sur le mur noir. Un tintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles, une lueur rousse a rempli mes yeux, et puis il m'a paru que le cachot était plein d'hommes, d'hommes étranges, qui portaient leur tête dans leur main gauche et la portaient par la bouche parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Tous me montraient le poing, excepté le parricide. Je fermai les yeux avec horreur, alors j'ai tout vu plus distinctement. Rêve, vision, réalité. Je serais devenu fou si une impression brusque ne m'eût réveillé à temps. J'étais prêt de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues. C'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Cela m'a dépossédé. Oh, les épouvantables spectres ! Non, c'était une fumée, une imagination de mon cerveau vide et convulsif. Chimère à la Macbeth. Les morts sont morts, cela surtout. Ils sont bien cadenassés dans le sépulcre. Ce n'est pas là une prison dont on s'évade. Comment se fait-il donc que j'ai eu peur ainsi? La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans.
Fin de la section 2.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.